Mais ça peut aller très loin dans l'espace et dans le temps.
Oui, et ça, c'est l'autre spécificité de l'eau, c'est que l'eau, ça bouge. Et qu'effectivement, les conséquences, les impacts négatifs, que ce soit en termes de pompage, de surexploitation ou de pollution, ils se transmettent petit à petit en aval. Et donc, en général, la pollution, ça se dilue. Donc, ça se sent moins en aval, mais il peut y avoir des incidents majeurs qui font que ces conséquences deviennent tout à coup visibles pour toutes les populations sur des centaines de kilomètres en aval. Et on en a eu des exemples, j'en parlais tout à l'heure, avec la rupture de ce qu'on appelle les barrages miniers. Donc, dans plusieurs pays, au cours de l'année écoulée. Donc, les barrages miniers, c'est comme je disais, les compagnies minières entassent un peu ces eaux usées issues de l'extraction, ces débris de roches contaminés dans des bassins qui sont retenus par des barrages. Et malheureusement, souvent, d'autant plus quand les mines sont abandonnées, que les entreprises responsables des mines sont parties, ils sont mal entretenus. Et cette année, on a eu plusieurs exemples où des barrages se sont effondrés. Donc le plus récent, c'était au Brésil, la catastrophe de Samarco. Donc c'est un barrage à côté d'une mine de fer dans le Minas Gerais qui s'est effondrée. Et les boues toxiques sont parties tout en aval du Rio Doce, qui est un fleuve brésilien, jusqu'à l'océan, et qui a donc a affecté non seulement la biodiversité, mais l'accès à l'eau potable de millions de personnes. Et le gouvernement brésilien et les entreprises concernées sont actuellement en conflit juridique pour savoir qui va payer l'ardoise de cette catastrophe qui est de plusieurs milliards de dollars. Mais il y en avait eu quelques mois auparavant, il y en avait eu un aux États-Unis qui est intéressant parce que là c'était une mine abandonnée dans le Colorado. Et en fait c'est l'agence américaine de l'environnement qui a été voir parce qu'on leur avait signalé qu'il y a une petite fuite de substances toxiques. Et ils ont fait une erreur, malheureusement une erreur terrible où tout à coup le barrage s'est effondré à cause d'eux et ça s'est parti dans tout le bassin du fleuve Colorado. Quatre États américains ont décrété l'état d'urgence, la nation Navajo a aussi décrété l'état d'urgence. Et ce que disent les observateurs, c'est qu'en fait, on a peut-être échappé au pire parce que c'était une mine relativement petite, alors qu'il y avait des mines beaucoup plus grandes, qu'il y avait des barrages avec des résidus miniers beaucoup plus grands dans la même région, et de la même manière qui sont laissés à l'abandon, et que si ça avait été un plus gros barrage, les conséquences auraient pu être catastrophiques, beaucoup plus catastrophiques en tout cas.
Oui, parce qu'elle était déjà pas mal. Justement, moi, je trouve que c'est un des sujets d'étonnement, Olivier Petitjean, c'est que toutes ces catastrophes dont vous parlez, ce ne sont pas des menaces. Elles se sont déjà produites, et plus d'une fois. Des populations ont été touchées. De l'eau potable est devenue impropre à la consommation. Des pans entiers de montagnes ont disparu, des rivières, des nappes entières ont été souillées. Et vous le disiez, c'est une question de vie ou de mort. Donc, face à ça, j'aimerais que vous nous parliez peut-être un peu plus des conflits que ça suscite. D'une part, pour qu'on voit la façon dont des groupes peuvent se défendre, ou ne peuvent pas d'ailleurs, et puis surtout, est-ce que ça influe sur la situation? Est-ce que, je sais que par exemple, on entend très souvent dire, mais tout ça ce sont les mines du passé, aujourd'hui les mines sont propres, aujourd'hui on a des nouvelles techniques qui permettent, etc., etc. Donc j'aimerais maintenant qu'on voit comment cette situation peut évoluer, si elle évolue.
Tout ça se situe en arrière-plan un problème généralisé qui est l'influence des multinationales et leurs relations privilégiées avec les gouvernements, notamment dans les pays du Sud, mais pas seulement, et les élus locaux, et l'argument économique qu'elles peuvent avancer, notamment vis-à-vis des gouvernements. Souvent, les mines, ceux qui sont affectés les plus directement dans les mines, c'est pas les citoyens qui ont le plus de pouvoir politique dans un pays comme le Pérou, le Niger ou bien d'autres. C'est des communautés, comme je disais, des communautés indigènes, des communautés locales traditionnelles. Elles n'ont pas la même capacité d'influence sur l'État que les élites dans les capitales et les intérêts économiques. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça continue à se faire.
Si ce n'est qu'aujourd'hui, on voit bien que cette fringale de minerais, elle s'étend largement au-delà des zones traditionnellement concernées, puisqu'on a vu qu'en France, par exemple, il y a énormément de projets de mines. Mais il y en a aussi aux États-Unis, vous les avez cités, il y en a en Australie, il y en a au Canada.
Malheureusement, on le voit systématiquement en matière d'eau et de pollution de l'eau et de surveillance, disons, des activités des entreprises extractivistes et de leur impact sur l'eau. On est systématiquement, et c'est vrai aussi bien dans les pays comme le Pérou qu'en France ou aux États-Unis, face à un manque de savoir. Et ce manque de savoir, il vient de plusieurs raisons à la fois. D'abord, les entreprises elles-mêmes n'aident pas à ce que les gens, les gouvernements et encore moins les simples citoyens locaux sachent ce qui se passe. Soit elles font elles-mêmes les études et les gardent sous le coude autant que possible, soit, et ce qui est le cas le plus fréquent, elles préfèrent ne pas qu'on n'étudie pas, par exemple, la qualité de l'eau, on teste pas toutes les substances, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème et personne ne verra les problèmes.